Bonsoir à tous. Un Italien pour compléter le puzzle des nominations à la tête de l'Europe, David Sassoli, élu président du Parlement européen. Nous y serons dès le début de ce journal. Le gouvernement approuve l'accord de libre-échange avec le Canada. Il devra être ratifié dans 2 semaines par l'Assemblée nationale. Les inquiétudes des agriculteurs étaient-elles justifiées? On vous explique. Des votes par correspondance et des AG de copropriétaires en vidéoconférence. Des pistes très concrètes pour réformer le droit de la copropriété. Ça devrait être officialisé dans les prochaines semaines dans la foulée de la loi Elan. Dans ce journal aussi, la plainte collective à Nantes après le fiasco de la fête de la musique et un buste de Toutankhamon vieux de 3000 ans mis aux enchères à Londres et qui provoque la fureur du Caire. Soleil et chaleur demain, pollution à l'ozone, la circulation différenciée prolongée à Marseille jusqu'à lundi. Prévision météo à la fin de ce journal.
France Inter.
Du JT au perchoir, itinéraire du nouveau président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, 63 ans, élu ce matin à Strasbourg. L'ancien présentateur du journal télévisé de la RAI est eurodéputé depuis 10 ans et c'est donc un social-démocrate qui prend la tête du nouveau Parlement européen. Largement élu avec le soutien des élus du PPE, le groupe de droite au Parlement, mais sans les voix de ses compatriotes de la Ligue de Matteo Salvini, bien au contraire. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Anaïs.
Vous avez suivi cette élection à Strasbourg, résultat en fait de toutes ces tractations entre dirigeants européens pour s'entendre sur ce paquet de nominations.
Et oui, cela s'est donc fini au Parlement par un passage de témoin italo-italien.
L'onorevole Sassoli a ottenuto la maggioranza
Antonio Tajani, président sortant, laisse sa place à David Sassoli, un social-démocrate, vous l'avez dit, comme prévu hier à Bruxelles. Pièce du grand puzzle conçu par les chefs d'État. Sauf que ce grand puzzle, eh bien, il fâche notamment les sociaux-démocrates à qui la présidence de la Commission a, vous le savez, échappé. On a lâché la proie pour l'ombre, résumait l'un d'eux. Du coup, à peine élu, David Sassoli a dû donner des gages.
Je ne suis pas l'homme du Conseil européen, je suis un homme du Parlement. Et je pense que les discussions qui ont lieu hier dans les différents groupes politiques à propos du paquet mis sur la table prouvent que le Parlement a su faire un choix en toute autonomie et indépendance.
L'indépendance du Parlement célébrée dans l'hémicycle, âprement défendue en coulisses chez les sociaux-démocrates, les Verts et même une partie des conservateurs. Le grand mécano européen laisse un goût bien amer.
Oui, un nom fait grincer des dents à Strasbourg, celui de la future présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, qui est justement au Parlement, Louise.
Oui, opération séduction de l'actuelle ministre de la Défense allemande. Elle a rencontré les siens, élu CDU, puis conservateur du PPE. Mais elle en profite sans doute aussi pour nouer des contacts avec les autres groupes politiques, dont certains sont très rétifs. Question de méthode de désignation, on l'a vu. Question aussi de profil. Ursula von der Leyen est critiquée en Allemagne, inconnue à l'étranger. Bref, le vote qui doit confirmer sa nomination ici à Strasbourg n'est pas totalement acquis mi-juillet.
Louise Baudet en direct du Parlement européen à Strasbourg. On revient sur ce casting. Au téléphone sonne ce soir. Vous pouvez poser vos questions au 01 45 24 7000. Enfin, la Commission européenne finalement ne tape pas encore sur les doigts de l'Italie. Pour l'instant, pas de procédure disciplinaire pour déficit excessif. L'Europe, qui on vient de le voir, émerge à peine de son mercato des nominations. Et la nouvelle équipe déjà sollicitée pour faire pression sur la Libye après le carnage dans un centre de détention de migrants près de Tripoli, centre visé par un raid attribué aux forces du général Haftar. Au moins 44 morts, 130 blessés, effroi des ONG et de l'ONU qui dénonce un possible crime de guerre. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés insiste, la Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants, dit-il. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Il est déjà en vigueur de manière provisoire depuis presque 2 ans et le Conseil des ministres vient de donner son feu vert à la ratification du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors côté pile, le bilan très positif mis en avant par le gouvernement, des exportations en hausse de plus de 6% vers le Canada, un excédent commercial qui a fait un bond, passé de 50 à 450 millions d'euros. Côté face, eh bien des inquiétudes sur les enjeux environnementaux et sanitaires et sur le système de règlement des litiges relations entre firmes et États. Et ce qui intervient en pleine discussion sur cet autre accord de libre-échange avec le Mercosur, dénoncé par les agriculteurs et les écologistes qui craignent le rouleau compresseur de l'agro-business, l'importation de 100 000 tonnes de bœuf gavé au soja OGM. Delphine Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint. Pourquoi le CETA serait-il moins inquiétant que l'accord Mercosur?
D'abord, entre le CETA et le Mercosur, pour les agriculteurs, la concurrence très clairement ne sera pas la même. Le Mercosur, les pays du Mercosur sont de gros exportateurs de viande, beaucoup plus que le Canada. Un premier bilan du CETA, qui est donc entré en vigueur il y a 2 ans, montre que l'invasion de bœuf canadien en Europe, l'invasion tant redoutée, n'a pas eu lieu. Seules 365 tonnes ont été effectivement importées en Europe, 120 fois moins que prévu. Les agriculteurs français auront-ils plus de mal à digérer les exportations de viande argentine? Au ministère de l'Agriculture, on se montre plutôt confiant sur la base des déclarations, car le texte de l'accord du Mercosur lui-même n'est pas encore connu. Déjà aujourd'hui, l'Union européenne importe 200 000 tonnes de viande de ces pays en appliquant un droit de douane élevé, de la viande qui respecte les règles européennes, sans OGM, sans chlore, sans hormones. L'accord conclu il y a quelques jours va permettre de faire entrer sur ce même volume 100 000 tonnes, c'est-à-dire la moitié de bœuf, avec un droit de douane réduit de 7,5%. Et ce quota, il faudra 6 ans pour l'atteindre complètement, idem pour la volaille. Au final, il n'y aura donc pas plus de bœuf ou de volaille importée en Europe venant du Mercosur, mais c'est vrai qu'une grande partie, au moins, sera moins taxée et on pourra les acheter moins cher en Europe. Du coup, la concurrence pour les producteurs de produits transformés pourrait être effectivement beaucoup plus importante.
Et le CETA, je précise, devra être ratifié à l'Assemblée nationale le 17 juillet. Que retiendra-t-on du bac 2019 en attendant les résultats? Eh bien, que cette édition cristallise comme rarement l'opposition des enseignants au projet de réforme du lycée et du bac. Grève de surveillance de l'épreuve de philo en juin et le bras de fer continu. Des correcteurs refusent de saisir les notes des copies qu'ils ont corrigées. Conséquence, le ministre de l'Éducation nationale doit reconnaître du bout des lèvres que les résultats ne seront peut-être pas connus le jour J, à savoir vendredi. Dans l'Académie d'Amiens, une trentaine de profs se sont rassemblés devant le rectorat aujourd'hui. Ils disent avoir corrigé les copies, mais ils se sont mis en grève aujourd'hui pour ne pas les rendre. Selon les syndicats, ça concernerait 27% des copies de philo dans l'Académie. Bénédicte Robin les a rencontrés.
Aux portes du rectorat, comme ils se sentent laissés aux portes du ministère, les professeurs demandent une chose: le dialogue.
Il n'y en a jamais eu en fait, donc on voudrait en avoir un petit.
David est venu de l'Oise pour répondre à l'appel de ses collègues philosophes.
J'ai pas fait passer des euros de bac là, en domaine de sciences de l'ingénieur, et je suis pas allé aux corrections, les 2 jours en atelier.
C'est votre seul moyen de pression, ce genre d'action-là?
Il y a eu beaucoup de journées d'action, de grève, etc.
Damien est professeur de philosophie à Beauvais.
Je pense que ça a été rendu complètement invisible. Là, pour le coup, je pense qu'on est visible.
Ce n'est donc pas de gaieté de cœur, mais surtout pour le symbole.
Dans la voiture, j'ai mon paquet de copies. Si jamais le ministre change d'avis, je suis prêt à les rendre maintenant.
De son côté, le rectorat est chargé de leur téléphoner pour les inciter à rendre leurs copies et donc leurs notes.
Pour l'instant, ça va. Ah bien, en tout cas. Mais je sais que j'étais en contact avec un ami à Toulouse. Ils se sont fait menacer par la rectrice de sanctions administratives très lourdes. Retrait de salaire pendant 15 jours. C'est juste des techniques de dissuasion qui sont politiques. Et plus on est nombreux, moins ces menaces pourront être appliquées de toute façon. Voilà, moi ça me décourage pas.
Pour défendre, dit-il, les futurs candidats et leur garantir un diplôme national et non pas à la carte et local comme la réforme pourrait le laisser craindre.
Et l'association de parents d'élèves de la PEP dénonce ce soir une prise en otage des enfants. La fête de la musique s'était terminée dans le chaos à Nantes. Gaz lacrymogène pour disperser une fête électro. 14 personnes tombées dans la Loire. Un jeune de 24 ans, Steve, toujours disparu. 85 personnes viennent de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle vise clairement l'opération policière. Écoutez Marianne Rostand, l'avocate des victimes.
Le parquet de Nantes aurait pu faire le choix effectivement d'ouvrir une enquête judiciaire, comme l'a fait par exemple le parquet de Paris ce week-end après l'intervention qui a eu lieu sur des manifestants écologistes. Ça n'a pas été le choix du parquet de Nantes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dépose cette plainte, afin qu'il y ait des investigations qui soient réalisées sur les conditions de cette intervention. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a eu aucune sommation ni échauffourée qui leur aurait permis de comprendre ce qui allait se passer. Et tout s'explique avoir été vraiment choqués et leur volonté aujourd'hui c'est de comprendre, c'est aussi d'apporter un peu de soutien effectivement dans le cadre de la disparition de Steve et d'appuyer les investigations pour être certain que effectivement ça ne reste pas lettre morte et qu'on ait des réponses à toutes ces questions parce qu'ils ne comprennent pas. À mon sens, si on était dans le cadre d'un autre événement que de la musique techno fait par des organisateurs habituels de rave party, l'intervention ne se serait pas passée dans ces conditions.
Marianne Rostand, l'avocate des victimes de la fête de la musique à Nantes. 6 hommes condamnés aujourd'hui jusqu'à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Bobigny. Ils avaient voulu attaquer un campement rom après la propagation sur les réseaux sociaux de rumeurs d'enlèvement d'enfants. Une réunion autour d'une table dans le café en bas de la rue avec votre voisin que vous croisez une fois par an à l'Assemblée Générale de la copropriété, eh bien, ça va changer pour 10 millions de propriétaires en France. Le gouvernement se penche sur la réforme du droit de copropriété. Nouveau mode de délibération, nouveau rôle pour les syndics et plus de travaux de rénovation. On commence à connaître les grandes lignes de cette réforme, Claire Chaudière.
Pour éviter l'absentéisme, le manque d'implication, les assemblées générales clairsemées, la réforme prévoit la possibilité de vote par correspondance et surtout des AG de copropriétaires en vidéoconférence. En apparence des détails, mais en réalité une petite révolution démocratique pour Jean-Marc Torollion, le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier qui représente de nombreux syndics.
Quand on met en perspective les évolutions telles que la vidéo-assemblée générale, le vote par procuration, la dématérialisation d'un certain nombre de choses, moi je vous prédis un bouleversement des modèles de gestion, ça bouge.
Car les votants devraient être plus nombreux, mais l'AG sera de moins en moins un lieu d'information et de débat. Cette phase va progressivement, explique Jean-Marc Torollion, avoir lieu en amont des assemblées générales. Autre point central de la réforme, la question d'un éventuel plan obligatoire de travaux d'entretien pour éviter la dégradation des immeubles qui préoccupe aujourd'hui les pouvoirs publics.
Demain, quand vous allez acheter votre appartement en copropriété, vous devrez savoir ce qui a été fait en termes d'investissement, quel est l'argent qui a été mis de côté. Et vous devrez connaître ce futur plan d'investissement. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs, ce qui à mon avis est une excellente chose.
La création d'un ordre professionnel des syndics muni d'un pouvoir disciplinaire et de sanctions fait également partie des sujets sur la table.
Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, Thomas Ebbessen, l'une des meilleures têtes pensantes de France puisqu'il vient de décrocher la médaille d'or du CNRS, auteur de découvertes fondamentales dans les nanosciences avec la lumière comme fil conducteur de ses recherches. On en parle dans le journal de 19h. Des yeux en amande, un creux entre les yeux et les sourcils. Les fans d'Égypte ancienne reconnaissent au premier coup d'œil ce buste de Toutankhamon, une statuette de 28 cm de haut, vieille de 3000 ans. Est mise aux enchères à Londres par Christie's demain, ce qui déclenche la fureur de l'Égypte qui tente de s'opposer à cette vente. Au Caire, Martin Roux.
Le Caire voit rouge et exige le rapatriement de ce trésor national, car selon des archéologues égyptiens, ce portrait de Toutankhamon provient d'un lot volé au temple de Karnak à Louxor dans les années 70, mais la maison Christie's dément et affirme que la propriété de l'objet est clairement établie, première vente attestée autour de 1973 par un collectionneur qui l'avait en sa possession depuis, dit-on, les années 60. Cette traçabilité est cependant loin d'être suffisante, estime quant à lui l'égyptologue Christian Leblanc.
La traçabilité de départ, elle est floue. Mais comment, par exemple, Christie's va aller vérifier ça? Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas les compétences non plus. Donc ça veut dire que là, c'est très dangereux. Parce qu'à partir du moment où on met une pièce comme ça en vente sur le marché des antiquités, on encourage d'éventuels spolieurs ou voleurs, finalement, d'antiquités.
Si le vol de ce buste de Toutankhamon n'est aujourd'hui pas avéré, le trafic illégal d'antiquités, quoi qu'il en soit, un dossier majeur pour le Caire. Au cours des 5 dernières années, l'Égypte est parvenue à rapatrier près de 1500 antiquités volées. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Et Toutankhamon fascine toujours, mise à prix de ce buste si la vente a lieu, 4,5 millions d'euros. Qui pour affronter les États-Unis en finale du mondial féminin de football? Les Pays-Bas, championnes d'Europe, affrontent la Suède, c'est ce soir à 21h. Enfin, c'est pas du sport, mais un exploit tout de même, celui d'une jeune renarde polaire de moins d'un an. Elle a parcouru 3500 km à travers la banquise en seulement 76 jours. La renarde a été suivie il y a un an grâce à un émetteur satellite. Elle a quitté le Svalbard, un archipel norvégien à 1 000 000 de kilomètres du pôle Nord, et les scientifiques l'ont retrouvée dans le nord du Canada. Une endurance qui a surpris la communauté scientifique et qui montre comme la banquise est vitale pour les migrations des animaux arctiques. Dans un instant, la météo.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Les prévisions de Météo France avec Jean-Pierre Hameau, encore des orages ce soir.
Oui, absolument. Ils seront encore localement forts et en particulier entre le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire et les Alpes du Sud. Des cumuls de pluie seront parfois importants avec en prime des chutes de grêle et de fortes rafales de vent.
Et pour demain?
Eh bien, nous allons profiter d'une belle poussée anticyclonique. En conséquence, la journée sera bien ensoleillée. Prévoyez tout de même des averses en cours d'après-midi, mais uniquement au-dessus des différents massifs montagneux, à l'exception du massif Vosgien. On ira même jusqu'à l'orage sur le relief des Pyrénées et des Alpes. Et avec ce bon ensoleillement, les températures vont repartir à la hausse. Comptez 24 à 30 degrés dans la moitié nord, avec 24 à Brest, 25 à Lille, 29 à Paris et Nancy et 30 degrés à Tours. On ira jusqu'à 35 degrés dans la moitié sud, avec 32 à Lyon et Limoges, 33 à La Rochelle, 34 à Toulouse. On ira donc jusqu'à 35 à Nîmes.
Merci Jean-Pierre Hameau, Météo France.